Chapitre 5. Marché conclu. Rain reprit haleine et ouvrit les yeux dans l'obscurité. Il avait rêvé du dragon emprisonné dans son cercueil. Le rêve avait encore le pouvoir de l'inonder de sueur et de faire vibrer son cœur. Il était allongé, immobile, haletant, maudissant la créature et les souvenirs qu'elle lui avait laissés. Il fallait essayer de se rendormir. Ce serait bientôt l'heure de son quart et il allait regretter le sommeil que le cauchemar lui avait fait perdre. Il retint son souffle, tendit l'oreille au ronflement sonore de Grag et à la respiration légère de Selden. Il se tourna, agité, chercha une position plus confortable dans les draps humides de transpiration. Heureusement, il disposait d'un lit pour lui tout seul. D'autres devaient partager. Ces derniers jours, la maisonnée des Ténira s'était encore agrandie, de sorte qu'elle comprenait à présent un groupe représentatif de la population de Terrilville. La toute jeune alliance des premiers et nouveaux marchands, des esclaves et de trois navires avait failli être tuée dans l'œuf. Le groupe qui s'était réuni autour de la table des Ténira, augmenté de quelques délégués des nouveaux marchands, s'était hardiment présenté à la demeure de Restart et avait exigé d'entrer. Leurs espions avaient déjà épié l'arrivée des derniers chefs du conseil. Un certain nombre d'affidiers de Rhode, parmi les plus enragés, s'étaient aussi rassemblés. Rain s'était demandé s'il n'était pas en train de se jeter dans la gueule du loup. Mais Ciri avait paru calme sur le seuil. Rhode Cairn se tenait derrière elle, à sa gauche, l'œil torve. En dépit des mines menaçantes et des marmonnements du jeune marchand, la compagne les avait tous gracieusement invités à entrer et à se joindre à une discussion non officielle sur la situation. Mais tandis qu'ils se groupaient mal à l'aise autour de la table des négociations, des trompettes et des cloches s'étaient mises à sonner dans la cité. Quand tout le monde se rua dehors, Rain crut à un traquenard. Une sentinelle sur le toit avait crié qu'une flottille de navires chalcédiens approchait du port. Rhode Cairn avait dégainé un poignard en criant que les nouveaux marchands s'étaient ingérés dans la réunion avec l'espoir d'en finir avec le gouvernement légitime de Terrilville pendant que leurs alliés chalcédiens passaient à l'attaque. Comme des chiens enragés, lui et ses acolytes s'étaient jetés sur les représentants des nouveaux marchands. Les couteaux que tous avaient promis de laisser chez eux furent tirés. Le premier sang de l'attaque chalcédienne avait été versé ici même, sur le perron de Restart. Pour leur rendre justice, les chefs du conseil s'étaient élevés contre Rhode et ses hommes et les avaient empêchés de massacrer les délégués de trois navires, des tatoués et des nouveaux marchands. La réunion s'était dispersée. Les participants avaient fui la folie de Rhode et s'étaient précipités chez eux pour protéger leur famille des envahisseurs. Il y avait de cela trois jours. Les chalcédiens avaient débarqué, grouillant comme du fretin sur une plage. Des voiliers et des galères envahirent le port, dégorgèrent des guerriers sur les plages et les quais. Leur force avait eu raison des citoyens désorganisés de Terrilville et ils avaient capturé le Kendry. Un équipage d'élite l'avait fait sortir du port. Le navire était parti de mauvais gré, se vautrant, luttant, tandis que des canots manœuvrés par des marins chalcédiens le remorquaient. Rain ignorait ce qu'étaient devenus la vive nef et son équipage. Il se demandait si les chalcédiens pouvaient forcer Kendry à les emmener jusqu'à Troynous. Avait-il gardé la famille en otage pour contraindre le navire à obéir? Il tenait le port et les bâtiments alentour. Le cœur de Terrilville était tombé sous leurs griffes rapaces. Chaque jour, ils progressaient un peu plus vers l'intérieur, pillant systématiquement et détruisant ce qu'ils ne pouvaient emporter. Rain n'avait jamais vu pareil ravage. Certains édifices d'importance, les entrepôts où ils entassaient leur butin, les bâtiments en pierre, étaient laissés intacts, mais ils saccageaient tout le reste. Premiers ou nouveaux marchands, pêcheurs, colporteurs, prostituées ou esclaves, peu importait aux chalcédiens. Ils tuaient et volaient sans discrimination. Ils avaient brûlé la longue rangée d'habitations de trois navires, détruit les petites barques de pêche et massacré les gens. Ceux qui en avaient échappé s'étaient réfugiés chez leurs voisins. Les envahisseurs ne cherchaient nullement à négocier. Il n'était pas question de reddition. Les prisonniers étaient enchaînés et détenus sur un navire pour être emmenés comme esclaves en Chalcède. Si les envahisseurs avaient jamais compté des alliés parmi les habitants de Terrilville, ils les trahissaient. Ils n'épargnaient personne. Ils ont l'intention de rester. La voix grave de Grag était douce mais distincte. Quand ils auront massacré ou réduit tout le monde en esclavage, ils s'installeront à Terrilville qui deviendra une province de Chalcède. « Je vous ai réveillé en m'agitant ?» demanda Rain à mi-voix. « Pas vraiment. Je n'arrive pas à dormir pour de bon. J'en ai tellement assez d'attendre. Je sais que nous devions organiser la résistance, mais pendant ce temps, il a fallu assister à cette dévastation. Maintenant que le moment est venu, les minutes se traînent, et pourtant je regrette qu'on n'ait pas eu davantage de temps pour se préparer. Si ma mère et les filles pouvaient s'enfuir dans les montagnes et s'y cacher jusqu'à ce que tout soit fini. »
Fini dans quel sens ?
S'enquit Rain aigrement. Je sais qu'on ne doit pas se laisser abattre, mais je ne crois pas au succès de notre coup de main. Si on les chasse de nos plages, ils vont simplement se retirer dans leur vaisseau puis lancer une nouvelle attaque. Tant qu'ils restent maîtres du port, ils restent maîtres de Terrellville. Sans commerce, comment pouvons-nous survivre ?
Je ne sais pas, mais il doit bien y avoir un espoir, insista Grag avec obstination. Cette pagaille aura au moins eu le mérite de nous rassembler. Maintenant, tout le monde est forcé de voir qu'on n'en réchappera qu'en résistant ensemble.
Rain tâcha en vain de se montrer positif.
Il y a un espoir, mais bien faible. Si nos vives nefs revenaient et les chassaient du port, tout Terrellville se rallierait. S'il y avait moyen de les piéger entre la plage et l'entrée du port, on pourrait les tuer tous.
La voix de Grag trahit son inquiétude.
« J'aimerais bien savoir où se trouvent nos navires, ou du moins combien il nous en reste. J'ai idée que les Chalcédiens les ont attirés ailleurs. Ils ont fui, on les a poursuivis, là où une flotte beaucoup plus importante va peut-être nous anéantir. Comment avons-nous pu nous montrer aussi stupides ?»«
Nous sommes des marchands, pas des guerriers, » rétorqua Rain. « Notre plus grande force est aussi notre principale faiblesse. » Nous ne savons que négocier, et nos ennemis n'ont que faire de pourparler.
Grag émit un bruit qui tenait du soupir et du gémissement.
J'aurais dû être à bord de l'Ophélie ce jour-là. J'aurais dû partir avec eux. C'est affreux d'attendre et d'espérer sans savoir ce que sont devenus mon père et notre navire.
Rain garda le silence. Il ne savait que trop à quel point la lame aiguisée de l'incertitude pouvait entailler l'âme. Il ne ferait pas à Grag l'insulte de lui dire qu'il comprenait ses sentiments. La souffrance est une affaire personnelle. Il proposa
« Nous ne dormons pas. Autant nous lever. Allons parler dans la cuisine pour ne pas réveiller Selden. »
« Selden s'est réveillé, »
dit le garçon à mi-voix en s'asseyant.
« Je suis décidé. J'irai avec vous aujourd'hui. Je vais me battre. »
« Non. »
décréta Rain aussitôt, puis sur un ton plus tempéré.
Ce ne serait pas raisonnable, Selden. Ta situation est particulière. Tu es peut-être le dernier héritier du nom. Tu ne dois pas risquer ta vie.
Le risque, ce serait de rester à trembler ici sans rien faire,
rétorqua amèrement Selden.
Rain, je vous en prie. Quand je suis avec ma grand-mère ou ma mère, elles veulent bien faire, mais elles me rendent petit. Comment deviendrai-je un homme si je demeure toujours avec des femmes ? Il faut que j'aille avec vous aujourd'hui.
Selden, si tu viens avec nous, il se peut que tu ne deviennes jamais un homme,
avertit Grag.
Reste ici. Veille sur ta mère et ta grand-mère. C'est comme ça que tu seras le plus utile à Terrellville. C'est ton devoir.
Ne prenez pas ce ton protecteur,
répliqua sèchement le gamin.
S'il arrive qu'on se batte près de la maison, on sera tous massacrés, parce que d'ici là, vous serez tous morts. Je vais avec vous. Vous croyez que je serai dans vos jambes, que vous serez obligés de me protéger, mais ça ne se passera pas comme ça, je vous le promets. »
Grag allait répondre, mais Rain intervint.
« Allons dans la cuisine discuter de tout ça, je prendrai bien un peu de café. »«
Vous n'en aurez pas, »
grommela Grag. Puis, sur un ton volontairement moins rébarbatif,
« Mais il y a encore du thé. »
Ils n'étaient pas les seuls que le sommeil avait fui. Le feu dans la cuisine avait été ranimé et une grande marmite de bouillie était déjà en train de bouilloter. La mère de Grag, sa sœur et les Vestrites s'agitaient dans la vaste pièce avec des mines affairées. Et il n'y avait pas assez de travail pour les occuper toutes. Un murmure de voix provenait de la salle à manger où l'on apportait des plateaux. Eck Kelter était là aussi. Elle adressa un sourire chaleureux à Grag et lui offrit une tasse de thé, puis elle s'assit sur la table de la cuisine en face de lui et déclara d'un ton détaché
« Les incendiaires sont déjà partis. Ils voulaient être certains d'être en position avant l'assaut.
Rain sentit son cœur tressaillir étrangement. Soudain, tout devenait réel. La fumée et les flammes s'élevant de l'entrepôt des drures sur les quais devaient être le signal de l'attaque. Des espions téméraires, de petits esclaves pour la plupart, avaient découvert que les Chalcédiens y avaient entassé leur butin. Ils allaient sûrement intervenir pour combattre l'incendie. Terrilville sacrifierait ses richesses volées pour attirer les Chalcédiens et les concentrer. Une fois l'incendie allumé, les insurgés tenteraient d'embraser les navires Chalcédiens avec des flèches enflammées. Des hommes de trois navires, le corps enduit de graisse pour se protéger de l'eau glacée, nageraient jusqu'au vaisseau et fileraient des chaînes d'encre. Les différents groupes de Terrilville avaient mis sur pied cette diversion pour désorganiser les envahisseurs avant de tenter une offensive à l'aube. Tous les hommes s'étaient armés de leur mieux. Vieilles épées de famille, gourdins, couteaux de boucher, pelles de pêche, faucilles, tout serait bon. Marchands et pêcheurs, jardiniers et esclaves marmitons convertiraient leurs outils en armes aujourd'hui. Rain ferma les yeux et serra les paupières. C'était déjà dur de mourir. Fallait-il donc qu'il soit si mal équipé? Il se versa une tasse de thé brûlant et souhaita en silence bonne chance aux sinistres saboteurs qui se faufilaient discrètement dehors dans la nuit froide et pluvieuse. Selden, assis à côté de lui, lui agrippa le poignet sous la table. Rain lui lança un coup d'œil interrogateur et vit le petit visage s'éclairer d'un étrange sourire sans joie.
« Je le sens, » dit le garçon à voix basse. « Pas vous ?»«
C'est naturel d'avoir peur, » assura Rain pour le réconforter. Selden se borna à secouer la tête et lui lâcha la main. Le jeune homme sentit son cœur se serrer. Le petit frère de Malta avait traversé trop d'épreuves pour son âge. Sa raison en avait été ébranlée. Ronica Vestrit apporta du pain frais sur la table. La vieille femme avait tressé ses cheveux grisonnants et les avait épinglés solidement. Rain la remerciait quand Yanni pénétra dans la cuisine. Elle n'était pas voilée. Les habitants du désert des pluies ne cachaient plus leur apparence depuis le jour où Rain avait retiré son voile à la table du conseil. S'ils devaient tous faire partie de la nouvelle cité, autant que ce soit à visage découvert, ses écailles, ses gibbosités et ses yeux cuivrés étaient-ils si différents des tatouages qui rampaient sur la figure des esclaves? Sa mère aussi avait fixé ses cheveux nattés sur la tête. Elle portait des pantalons au lieu de ses jupes flottantes. Elle répondit au coup d'œil perplexe de son fils. « Je ne serai pas gêné par mes jupes quand nous attaquerons. » Il la dévisagea, attendant un sourire qui lui confirmerait qu'elle plaisantait, mais elle ne sourit pas. Elle se contenta de déclarer tranquillement. « C'était inutile d'en discuter. Je savais que vous y seriez tous opposés. » Lorsque nous sommes arrivés ici, les femmes et les enfants ont pris autant de risques que les hommes, il est temps que vous vous en souveniez. Nous allons tous nous battre aujourd'hui, Rain. Mieux vaut mourir en luttant que vivre dans l'esclavage après que nos hommes se seront fait tuer en tâchant de nous protéger. Drag commenta avec un sourire navré. Eh bien, voilà qui est optimiste. Il considéra sa mère. Toi aussi? « Bien sûr. Tu crois que je ne suis bonne qu'à te faire la cuisine et à t'envoyer ensuite à la mort ?»
Naria Tenira prononça ces paroles amères en posant sur la table une tourte aux pommes fumantes. Plus doucement, elle ajouta « Je l'ai faite pour toi, Grag. Je sais que c'est ton plat préféré. Il y a de la viande, de la bière et du fromage dans la salle à manger, si tu aimes mieux. Les autres qui sont partis avant toi voulaient un déjeuner consistant à cause du froid. » C'était peut-être leur dernier repas en commun. Si les Chalcédiens l'emportaient aujourd'hui, ils trouveraient le garde-manger vide. À quoi bon conserver quoi que ce soit, qu'il s'agisse de nourriture ou de vie bien aimée? En dépit de la menace qui planait, ou peut-être à cause d'elle, l'odeur des fruits tièdes, parfumés au miel et à la cannelle, n'avait jamais paru aussi délicieuse. Grag découpa de généreuses tranches. Rain posa devant Selden le premier morceau de tourte et accepta une part pour lui-même. « Merci, » dit-il doucement. Il ne trouva rien d'autre à ajouter.
Tintaglia tournait très haut au-dessus du port de Terrilville. La colère qui fermentait en elle finit par déborder. Comment osait-il traiter un dragon de la sorte? Elle était peut-être la dernière de son espèce, mais elle était toujours seigneur des trois règnes. Pourtant, à Troisnous, on l'avait éconduite comme on repousse un mendiant qui frappe à votre porte. Quand elle avait survolé la cité en rugissant pour faire comprendre aux habitants qu'elle allait atterrir, ils ne s'étaient pas donné la peine de débarrasser le quai. Et lorsqu'elle avait fini par se poser, les gens s'étaient enfuis en poussant des cris perçants alors que ses ailes balayaient caisses et barils dans le fleuve. Ils s'étaient cachés, ils avaient dédaigné sa visite au lieu de lui faire bonne chère. Elle avait attendu en se disant qu'ils étaient apeurés. Ils n'allaient pas tarder à se ressaisir et à la saluer comme il convenait. Bien loin de cela, ils avaient envoyé des hommes abrités derrière des boucliers de fortune, armés d'arcs et de flèches. Ils s'étaient avancés vers elle en ligne, comme s'ils avaient eu affaire à une vache égarée à ramener au sein du troupeau, et non à un seigneur à servir. Pourtant, elle avait conservé son sang-froid. De nombreuses générations étaient passées depuis qu'un dragon était venu leur rendre visite. Peut-être avait-il oublié les courtoisies d'usage. Il fallait leur laisser une chance. Mais lorsqu'elle les salua comme s'il lui avait fait allégeance, certains avaient adopté une attitude d'incompréhension totale, alors que d'autres s'écriaient « il a parlé !» comme si c'était un prodige. Elle avait attendu patiemment qu'ils aient fini de se chamailler. Enfin, ils avaient poussé une femme en avant. Elle avait pointé sa lance tremblante sur Tintaglia et avait demandé « Pourquoi es-tu ici ?» Elle aurait pu la piétiner, cette femme, ou ouvrir la gueule et l'asperger d'un brouillard de toxines. Néanmoins, une fois encore, elle avait ravalé sa colère et interrogé simplement « Où est Rein ? Envoie-le-moi ici !» La femme avait serré sa lance pour atténuer son tremblement.
« Il n'est pas là »
s'était-elle écriée d'une voix suraiguë.
« Maintenant va-t'en avant qu'on t'attaque !»
D'un coup de queue, Tintaglia avait envoyé à l'eau une pyramide de caisses.
« Amène-moi Malta alors !» « Amène-moi quelqu'un qui soit assez intelligent pour parler avant de menacer. »
Le porte-parole recula jusqu'à la rangée de guerriers blottis derrière leurs boucliers et s'entretint brièvement avec eux. Puis, se hasardant à quitter la protection de la foule, elle avança de deux pas avant de déclarer
« Malta est morte et Rein n'est pas là. »«
Malta n'est pas morte !»
s'exclama Tintaglia exaspérée. Son lien avec la femelle humaine était moins fort qu'avant, mais il n'avait pas disparu.
« J'en ai assez de tout ça. Envoie-moi Rein ou dis-moi où je peux le trouver. »
La femme se campa devant le dragon.
« Il n'est pas là, c'est tout, va-t'en. »
C'en était trop. Tintaglia se dressa sur ses membres postérieurs, puis s'abattit avec fracas sur ses antérieurs, ce qui ébranla violemment le quai. La femme chancela, tomba à genoux tandis que quelques guerriers derrière elle rompaient le rang et s'enfuyaient. D'un coup de queue, le dragon balaya le reste des caisses et des barils. Puis, il saisit dans sa gueule la lance dérisoire, la brisa en mille morceaux qu'il recracha sur le côté.
« Où est Rein ?»
rugit-il.
« Ne dis rien !»
cria un des hommes, mais un jeune homme bondit en avant.
« Ne la tue pas, je t'en prie »
supplia-t-il. Il foudroya du regard les porteurs de lance.
« Je ne vais pas sacrifier Allah pour le salut de Rein. C'est lui qui a attiré le dragon sur nous. Qu'il se débrouille avec. Rein est parti, dragon. Il est allé à Terrilville, à bord de Kendry. Si tu veux le voir, cherche-le là-bas, pas ici. Sinon, c'est le combat. »
Certains le traitèrent de traître et de lâche, mais d'autres se rangèrent de son côté en disant au dragon d'aller poursuivre Rein ailleurs. Tintaglia était écœurée. Laissant la femme s'échapper, elle se dressa sur ses postérieurs, reposa ses pattes sur le quai, y planta les griffes et laboura les planches qui s'émiettèrent comme des feuilles sèches. D'un coup de queue, elle fracassa deux barques amarrées au quai. Elle leur fit comprendre par là qu'elle pouvait les anéantir sans le moindre effort.
« Je n'aurai aucun mal à faire écrouler votre cité !»
rugit-elle.
« N'oubliez pas, misérable de pattes, vous aurez encore de mes nouvelles. » Quand je reviendrai, je vous apprendrai le respect, je vous enseignerai à servir un seigneur des trois règnes. »
Ils se regroupèrent alors, du moins ils essayèrent. Quelques-uns se précipitèrent sur elle, lance baissée. Au lieu de charger,
Elle déploya les ailes, bondit avec légèreté dans les airs, puis s'abattit de tout son poids. Le choc souleva l'extrémité du quai et ses soi-disant défenseurs furent projetés en l'air. Ils retombèrent brutalement. L'un d'eux au moins piqua dans l'eau. Elle n'avait pas attendu d'autres preuves de leur irrévérence. Elle s'était lancée en faisant tanguer follement le quai. Alors qu'elle montait dans le ciel, des gens hurlaient en brandissant le poing ou en tremblant. Peu lui importait. Elle voulait de l'air. Terrible ville. C'était sans doute cette petite ville nauséabonde qu'elle avait survolée. Elle irait y chercher Rain. Il avait déjà parlé en son nom. Il recommencerait, leur ferait comprendre à tous à quel courroux il s'exposait s'il ne lui obéissait pas. À présent, elle était ici, chevauchant un vent froid d'hiver au-dessus des maisons blotties tout en bas. Des étoiles pâlissantes constellaient le ciel. Des lumières jaunes brillaient éparses dans la ville endormie. L'aube allait bientôt agiter les humains dans leur nid. Une puanteur méphitique de brûlé montait par bouffées à ses naseaux. Des navires peuplaient le port et, sur le front de mer, des feux de bivouac brûlaient à intervalles réguliers. Tout autour, elle aperçut des hommes qui faisaient les 100 pas. Elle fouilla dans sa mémoire. La guerre. Elle assistait au chaos pestilentiel de la guerre. D'une épaisse fumée qui s'échappait d'un bâtiment près des quais, s'épanouirent tout à coup des flammes oranges. Une clameur se fit entendre. Ses yeux perçants discernèrent des silhouettes qui s'enfuyaient furtivement tandis qu'une troupe d'hommes convergeait vers le feu. Elle descendit encore, essayant de distinguer ce qui se passait. Elle reconnut alors le sifflement des flèches. Les projectiles enflammés passèrent tout près d'elle et s'abattirent sur un navire où ils s'éteignirent rapidement. Une seconde volée suivit. Cette fois, la voile d'un vaisseau s'embrasa. Les flammes dévorèrent rapidement la toile en s'élevant vers elle. Tintaglia battit des ailes pour prendre de l'altitude et l'appel d'air provoqué par son passage attisa le feu. Sur le pont du navire, les hommes hurlaient stupéfiés. Ils montraient du doigt, au-delà de la voile flambante, le dragon qui se découpait dans le ciel. Elle entendit un arc vibrer et un trait passa près d'elle en sifflant. Elle esquiva le projectile, mais d'autres lui succédèrent. L'une des petites flèches l'atteignit, picotant sans lui faire mal son ventre aux écailles serrées. Elle était à la fois étonnée et outragée. Ils osaient essayer de lui nuire. Les humains cherchaient à contrarier la volonté d'un dragon. Elle fulminait. En vérité, voilà trop longtemps que les cieux étaient désertés. Comment les humains osaient-ils se croire maîtres de l'univers? Elle allait leur montrer leur folle présomption. Elle choisit le plus grand des vaisseaux, replia les ailes et piqua droit sur lui. Elle ne s'était jamais attaquée à un navire. De mémoire de dragon, les humains avaient rarement combattu son espèce. Elle découvrit rapidement qu'elle n'avait pas été bien inspirée de prendre le gréement dans ses serres. Les vaisseaux qui se balançaient n'offraient pas assez de résistance à son assaut. Il s'éloignait en tanguant, la toile et les filins s'emmêlaient dans ses pattes griffues. Elle se libéra du navire d'une violente secousse. Elle claqua des ailes pour prendre de l'altitude. Au-dessus du port, elle se dépêtra des filins, épars et toiles, et les regarda avec satisfaction s'écraser au beau milieu d'une galère qui coula sous le poids. À son second passage, elle choisit comme proie un deux-mâts. Les hommes à bord, en la voyant fondre sur eux, remplirent l'air de leurs flèches qui rebondirent sur elle pour retomber sur le navire. En le survolant, elle cingla d'un coup de queue et sectionna les deux mâts. Pris dans les voiles et le gréement, ils s'affalèrent, mais Tintaglia s'était déjà éloigné. Elle plana très bas au-dessus d'une galère dont l'équipage sauta par-dessus bord. Elle rugit de plaisir. Ils apprenaient si vite à la redouter. Le battement de ses ailes gigantesques secouait les petits bateaux. Un cœur de hurlement s'éleva en hommage à sa furie. Elle remonta puis vira vers le port. Alors que le soleil d'hiver apparaissait à l'horizon, elle aperçut dans l'eau sombre le reflet fugace éblouissant de son corps. Ses yeux perçants balayèrent la ville. On ne luttait plus contre les incendies, les combattants étaient dispersés. Tous les yeux étaient levés vers elle, tout mouvement suspendu, figé dans l'adoration devant les manifestations de son courroux. Son cœur bondit à leur regard empreint d'effroi sacré. Le parfum de leur peur monta à ses naseaux et l'enivra du sentiment de sa puissance. Elle prit son souffle et se mit à glapir en exhalant un brouillard de poison laiteux que le vent emporta. Quelques secondes s'écoulèrent, puis elle eut la satisfaction d'entendre d'atroces hurlements. Sur les navires, les gouttes de venin dévoraient peau et chair, transperçaient les os, rongeaient les entrailles et ressortaient des corps convulsés des victimes. Le venin de combat, issu des eaux acides de sa naissance, assez corrosif pour pénétrer l'armure d'un dragon adulte, traversait la chair aqueuse des humains sans perdre de sa virulence et faisait grésiller le bois de leur navire. La moindre gouttelette provoquait une blessure incurable. Tant pis pour ceux qui avaient voulu la cribler de flèches. Alors, à travers le tumulte, les hurlements, à travers le crépitement des flammes et la mélopée du vent, une voix solitaire, limpide, attira son attention. Elle tourna la tête pour l'isoler du bruit. Une voix chantait, une voix de jeune garçon, haute, sans être aiguë, douce, pure. Elle répétait
« Tintaglia, Tintaglia, reine bleue des vents et des cieux !» Tintaglia la glorieuse, terrible dans ta beauté, adorable dans ton courroux, Tintaglia, Tintaglia.
Ses yeux perçants découvrirent la petite silhouette. Il se tenait seul sur un tas de décombres, peu soucieux de constituer une cible idéale pour les flèches. Droit, joyeux, les bras levés, il chantait pour elle dans la langue des anciens. Ses flatteries l'envoûtaient. Il entrelaçait son nom dans la trame de son chant, le prononçait avec une douceur ineffable. Elle cueillit le vent sous ses ailes, vira, tourna en de gracieuses spirales, s'appuyant au courant d'air. Le chant évoluait avec elle, l'enveloppait de ses louanges ensorcelantes. Elle ne put lui résister. Elle se laissa descendre de plus en plus bas pour entendre les mots d'adoration. Les navires défaits fuyaient le port, elle s'en moquait, qu'il s'en aille. Cette ville était mal adaptée à l'accueil d'un dragon. Néanmoins, non loin de son charmant soupirant, elle repéra une place qui conviendrait à l'atterrissage. Alors qu'elle battait des ailes pour freiner sa descente, les humains furent nombreux à détaler dans tous les sens pour se réfugier derrière les bâtiments en ruine. Elle ne leur accorda aucune attention. Une fois posée, elle secoua et replia ses grandes ailes. Sa tête se balança au rythme des paroles de son ménestrel.
Tintaglia, Tintaglia, toi qui éclipses la lune et le soleil, Tintaglia, plus bleu que l'arc-en-ciel, plus étincelante que l'argent, Tintaglia, aux ailes véloces, aux griffes acérées, toi dont la laine est fatale aux vilains, Tintaglia, Tintaglia.
Ses yeux tourbillonnaient de plaisir. Depuis combien de temps n'avait-on chanté les louanges d'un dragon ? Elle observa le garçon et vit qu'il était en extase devant elle. Ses yeux chatoyaient du reflet de sa beauté. Elle se rappela qu'elle l'avait touché, celui-là, une fois déjà. Il était avec Reine quand elle était venue à son secours. Voilà qui résolvait le mystère. Il arrivait parfois qu'un mortel soit ravi en extase au contact d'un dragon. Les jeunes, surtout, étaient particulièrement sensibles à ce lien. Elle regarda ce petit être avec tendresse. Un papillon condamné à une vie si brève, et pourtant il se tenait devant elle sans crainte, et il l'adorait. Elle ouvrit grand ses ailes en signe d'approbation. C'était la plus grande accolade qu'un dragon pût donner à un mortel, bien que le chant juvénile ne la méritât guère. Ses paroles avaient beau être douces, il s'en fallait de beaucoup qu'il soit un ménestrel accompli. Elle fit frissonner ses ailes dont le bleu et l'argent ondoyèrent dans le soleil d'hiver. Il se tut, ébloui. Amusée, elle eut conscience de la présence des autres. Ils hésitaient en la scrutant derrière les arbres et par-dessus les murs. Ils serraient leurs armes et tremblaient, transis de peur. Elle courba son long col, fit des grâces en roulant des muscles. Elle étira les griffes, raya les pavés de la rue. D'un geste désinvolte, elle pencha la tête et baissa le regard sur son petit admirateur. Elle fit tourner ses yeux à dessein pour le fasciner. Elle sentit les battements douloureux de son cœur et le libéra. Il reprit peu à peu son souffle en haletant, mais resta debout. En vérité, tout petit qu'il fût, il était digne de chanter les louanges d'un dragon.
« Eh bien, ménestrel, » ronronna-t-elle amusée. « Cherches-tu à obtenir une faveur en échange de ton chant ?
Je chante de joie parce que tu existes,
répliqua-t-il hardiment.
C'est bien, répondit-elle.
Les autres, les humains cachés derrière Selden, se risquaient l'un après l'autre à approcher, armes en garde.
Imbécile! Elle cingla le pavé de sa queue, ce qui les fit regagner d'un bond leur abri. Elle rit très haut.
Pourtant, voilà que, niant la peur, un autre s'avançait, qui allongeait bravement le pas pour l'affronter. Rain portait à la main une épée, pointe en bas.
« Alors, tu es revenu ? » dit-il d'une voix calme.
« Pourquoi ?» Elle renâcla de mépris.
« Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Je vais où je veux, humain. Il ne t'appartient pas de questionner un seigneur des trois règnes. Le petit a choisi un meilleur rôle. Tu serais bien avisé de l'imiter. »
Rain piqua la pointe ensanglantée de son épée sur les pavés. Tintaglia flairait sur lui l'odeur du sang, de la fumée, de la sueur, l'odeur de la bataille. Il osa la regarder d'un air menaçant.
« Tu as débarrassé le port de quelques vaisseaux ennemis, et tu attends de nous qu'on rampe devant toi, éperdu de gratitude ?»«
Tu t'attribues une importance que tu n'as pas, Rain Hoprous. Je me moque de tes ennemis. » Il n'y a que les miens qui comptent. Ils m'ont provoqué avec leurs flèches. Ils ont trouvé une fin méritée, comme tous ceux qui me défient.
Le jeune homme brun du désert des pluies s'approcha. Il s'appuya sur son épée. Elle voyait bien maintenant. Il était plus fatigué qu'elle ne l'avait cru. Sur son bras gauche, une mince traînée de sang coagulé. Quand il leva la tête pour la regarder, la chiche lumière d'hiver joua sur son front squameux. Elle remua les oreilles, amusée. Il portait sa marque et ne le savait même pas. Il lui appartenait et il se croyait capable de se mesurer à elle. L'attitude du garçon était plus appropriée. Il se tenait très droit, se faisait le plus grand possible. Il regardait aussi le dragon, mais d'un air d'adoration et non de défi. Il avait des dispositions, ce petit. Malheureusement, ces dispositions exigeraient du temps pour se développer, et du temps, elle n'en avait pas pour le moment. Si les serpents survivants devaient être secourus, il fallait que les humains se mettent promptement à la besogne. Elle fixa son regard sur Rain. Elle connaissait suffisamment les hommes pour savoir qu'il l'écouterait, lui d'abord, avant d'écouter le petit garçon. Elle parlerait par son intermédiaire.
« J'ai une tâche pour toi, Rain Hoprous. De la plus haute importance. Toi et tes semblables devez l'accomplir toutes affaires cessantes, et jusqu'à ce que vous ayez terminé, vous ne devrez penser à rien d'autre. »
Il la regarda, les yeux ronds, incrédule. Les autres sortaient lentement des décombres. Ils se gardaient bien d'approcher de trop près, mais se tenaient à portée d'oreille, sans attirer outre mesure l'attention du dragon. Ils le considéraient avec de grands yeux, prêt à s'enfuir comme à le saluer. Ennemi ou champion ? Tintaglia les laissa à leur perplexité et se concentra sur Rain. Mais il la provoqua.
« C'est toi qui t'attribues une importance que tu n'as pas, » dit-il froidement. « Ça ne m'intéresse absolument pas de faire quoi que ce soit pour toi, dragon. »
Ces paroles ne la surprirent pas. Elle se dressa sur ses membres postérieurs pour le dominer, éploya ses ailes pour faire ressortir sa taille gigantesque.
« Alors ça ne t'intéresse pas de vivre, Rain Hoprous ?»
Il aurait dû reculer devant elle. Mais non, il se mit à rire.
« Là, tu as raison, ver de terre. Ça ne m'intéresse pas de vivre, et c'est ta faute. » Quand tu as laissé Malta courir à la mort, tu as tué tout le respect que j'ai jamais eu pour toi. Mon intérêt pour la vie est mort avec Malta. Alors fais de moi ce que tu veux, dragon. Mais je ne courberai plus jamais l'échine sous ton joug. Je regrette d'avoir tenté de te délivrer. Il aurait mieux valu que tu aies péri dans le noir avant que tu aies mené mon amour à la mort.
Elle fut saisie par ses paroles. Non seulement il se montrait à son égard d'une insupportable grossièreté, mais il avait réellement perdu toute crainte respectueuse. Ce pitoyable petit deux pattes, cet être de quelques souffles, était prêt à mourir sur le champ, parce que, elle tourna la tête et l'examina de plus près, ah, parce qu'il croyait qu'elle avait laissé mourir sa femelle, Malta.
Malta n'est pas morte,
s'exclama-t-elle indignée.
Tu dépenses en pure perte tes émotions et tes mots grandiloquents pour une simple divagation. Cesse tes sottises, Reinhoprous. La tâche que tu dois accomplir est bien plus importante qu'un accouplement humain. Je t'honore d'une entreprise qui peut sauver toute mon espèce.
Le dragon mentait. Le mépris de Rein ne connut plus de bornes. Il avait lui-même sillonné le fleuve à bord du Kendri et n'avait trouvé aucune trace de sa bien-aimée. Malta était morte, et le dragon lui mentait, afin de le plier à sa volonté. Il laissa son regard errer avec dédain au-delà de Tintaglia. Qu'elle le frappe là où il était. Il ne lui adresserait plus un seul mot. Il leva le menton, carra les mâchoires et attendit la mort. Mais ce qu'il vit alors lui fit écarquiller les yeux. Au-delà de Tintaglia, il aperçut des ombres furtives qui se faufilaient vers elle à travers les ruines. Elle se déplaçait, s'arrêtait, recommençait à avancer et s'approchait peu à peu du dragon. Leurs armures de cuir et leur queue de cheval les désignaient. C'étaient des Chalcédiens. Malgré les navires détruits dans le port, malgré leurs nombreux morts, ils s'étaient regroupés. Et maintenant, épée et lance au poing, hache parée, ils convergeaient vers le dragon. Un sourire sinistre crispa les lèvres de Rein. Le tour que prenaient les événements lui convenait tout à fait. Que ses ennemis s'entretuent. Quand ils en auraient fini, ils se chargeraient des survivants. Il les regardait avancer sans rien dire, en leur souhaitant bonne chance. Mais Grak Tenira bondit en avant en s'écriant
« Dragon, attention! Dans ton dos! À moi! Terrilville, à moi !»
Alors l'insensé chargea les Chalcédiens à la tête d'une poignée de ses compagnons ensanglantés pour défendre le dragon. Avec la promptitude du serpent, Tintaglia se retourna pour faire face à ses assaillants. Elle glapit de fureur, battit de ses grandes ailes, sans se soucier d'envoyer rouler dans le même temps plusieurs de ses défenseurs. Mâchoire béante, elle bondit vers les Chalcédiens. Elle souffla sur eux. Rein ne put en voir davantage, et pourtant les résultats furent horrifiants. Les hommes aguerris reculèrent, empiaillant comme des enfants. En un instant, tous les visages ruisselaient de sang. Les vêtements et les armures de cuir tombèrent en lambeaux de leurs corps inondés de rouge. Certains voulurent courir, mais ne firent que quelques pas et trébuchèrent. Des corps se désagrégeaient et s'effondraient. Ceux qui étaient plus éloignés du dragon réussirent à battre en retraite en titubant avant de s'écrouler dans des hurlements. Les cris même ne duraient pas longtemps. Le silence qui suivit leur râle d'agonie fut assourdissant. Grag et ses hommes s'arrêtèrent net, craignant d'approcher les corps sanglants. Rein se sentit pris de nausée. Les Chalcédiens étaient des ennemis, plus vils que des chiens, et il ne méritait aucune pitié. Mais le spectacle de cette mort soulevait le cœur. Les corps continuaient à se désagréger, perdant toute forme humaine. Une tête roula, détachée du tronc, et s'immobilisa sur le côté, tandis que la chair liquéfiée coulait du crâne.
Tintaglia tourna son énorme tête pour le regarder. Ses yeux tourbillonnaient.
S'amusait-elle devant cette horreur? Tout à l'heure, il lui avait dit qu'il n'accordait plus de prix à la vie. Sans avoir changé de sentiment, il savait pourtant que n'importe quelle mort était préférable à celle dont il venait d'être témoin. Il se raidit, décidé à mourir en silence. Où Grag Tenira trouva-t-il le courage? Rein l'ignorait. À grandes enjambées, le marchand vint se placer hardiment entre lui et le dragon. Il brandit son épée.
Tintaglia redressa la tête, indignée, Alors il s'inclina très bas et déposa son arme à ses pieds.
« Je te servirai. Débarrasse notre port de cette vermine, et je m'attaquerai à toute tâche que tu m'assigneras. »
Il regarda autour de lui. Il invitait manifestement les autres à se joindre à lui. Quelques-uns approchèrent prudemment, mais la plupart gardaient leur distance. Selden seul s'avança avec assurance pour se tenir à côté de Drag. En voyant les yeux brillants qu'il tourna vers le dragon, Rain se sentit malade. Selden était si jeune, il était la dupe de cet animal. Était-ce ainsi que sa mère et son frère l'avaient considéré, lui, quand il plaidait avec tant de véhémence la cause du dragon? Il grimaça à ce souvenir. Il avait lâché cette créature dans le monde et le prix de cette folie avait été Malta. Les yeux de Tintaglia flamboyèrent en observant Grag.
« Tu crois donc que je suis une servante, qu'on achète avec des gages? Il n'y a pas si longtemps tout de même que les dragons ont disparu de ce monde. La volonté d'un dragon prime tous les buts médiocres des humains. Vous allez mettre fin à ce conflit et tourner votre attention vers mes désirs. »
Selden devança la réponse de Grag.
Témoin des prodiges de ton courroux? Ô très puissante, comment pourrions-nous désirer autre chose? Ce sont eux, les envahisseurs, qui contestent ta volonté. Vois comme ils ont cherché à t'attaquer avant de connaître tes commandements. Frappe-les, chasse-les de nos rivages, reine ailée des cieux. Affranchis notre esprit de ce souci, que nous puissions nous tourner de grand cœur vers tes buts sublimes.
Reine regarda le gamin avec des yeux ronds. Où allait-il chercher pareil langage? Croyait-il qu'on pût manœuvrer un dragon aussi facilement? Ahuri, il vit la grande tête de Tintaglia se baisser jusqu'à ce que ses naseaux soient au niveau de la ceinture de Selden. Elle lui donna une petite chiquenaude qui fit chanceler le garçon.
« Langue suave, crois-tu pouvoir me tromper? Crois-tu que des belles paroles vont me persuader de besogner comme une bête pour vous? »
Il y avait tout ensemble de l'affection et du sarcasme dans son intonation. La voix enfantine de Selden résonna, claire et pure.
« Non, maîtresse du vent, je n'espère pas te tromper. Je n'essaie pas non plus de conclure un marché. Je te mendie cette faveur, ô très puissante, afin que nous puissions nous consacrer totalement à la tâche que tu nous assigneras. »
Il reprit son souffle.
Nous sommes des êtres à la vie éphémère. Nous devons ramper devant toi, car c'est ainsi que nous sommes faits, ainsi que sont faits nos petits esprits occupés de soucis étriqués. Aide-nous, reine rayonnante, à dissiper nos craintes. Chasse les envahisseurs de nos rivages, que nous puissions écouter l'esprit déchargé de toute préoccupation.
Tintaglia rejeta la tête en arrière et rugit de plaisir.
« Je vois que tu m'appartiens. Il fallait qu'il en soit ainsi, jeune comme tu es et si proche de mon premier éveil. Puissent les souvenirs de cent ménestrels devenir tiens, petit, afin que tu me serves bien. Et maintenant, j'y vais. Non pour obéir à tes ordres, mais pour faire la démonstration de ma puissance. »
Elle recula, plus grande qu'une maison, pivota sur ses postérieurs comme un étalon de guerre. Rain vit son puissant arrière-train se ramasser et il se jeta sur le sol. Un instant plus tard, il fut cinglé par une bourrasque de vent et de poussière. Il resta par terre tandis que, soulevé par ses ailes bleu-argent, elle montait dans le ciel. Il se releva en regardant, bouche bée, la silhouette qui diminuait si rapidement au-dessus de lui. Il avait l'impression que ses oreilles étaient bourrées de coton. Grag lui prit soudain le bras.
« À quoi pensiez-vous de le défier comme ça ?»
demanda le marchand. Il leva les yeux émerveillés.
« Il est magnifique, et c'est notre seule chance !»
Il adressa un large sourire à Selden.
« Tu as eu raison, petit gars. Les dragons, ça change tout.
Moi aussi, je l'ai cru autrefois,
dit Rain avec aigreur.
Mais oubliez son charme. Il est aussi trompeur qu'il est magnifique, et il ne voit que ses propres intérêts. Si nous nous inclinons devant sa volonté, il nous asservira aussi sûrement que si nous tombions aux mains des Chalcédiens.
Vous vous trompez.
Aussi petit et menu qu'il fût, Selden semblait dominer tant il était satisfait.
Les dragons n'ont pas asservi les anciens, et ils ne nous asserviront pas. Il y a maintes façons pour des êtres différents de vivre les uns avec les autres, Rein Ruprous.
Rein baissa les yeux sur lui et secoua la tête.
Où vas-tu chercher ces idées, petit? Et les paroles avec lesquelles tu charmes un dragon pour qu'il nous épargne?
Je les ai rêvées,
dit le garçon naïvement.
Quand je rêve que je vole avec elle, je sais comment elle se parle à elle-même. Reine du ciel, cavalière du matin, splendeur, je lui parle comme elle se parle à elle. C'est la seule manière de converser avec un dragon.
Il croisa ses bras frêles sur sa poitrine étroite.
C'est ma façon à moi de lui faire la cour.
Est-ce si différent de la façon dont vous vous adressiez à ma sœur? Le souvenir de Malta, des flatteries et des cajoleries dont il l'abreuvait fut pour Rein comme un coup de poignard. Il allait se détourner du petit garçon à l'insupportable sourire, mais Selden tendit la main et l'attrapa par le bras.
« Tintaglia ne ment pas, »
dit-il à voix basse. Il rencontra le regard de Rein et lui imposa de se montrer loyal.
« Elle nous considère comme trop insignifiants pour vouloir nous tromper. Croyez-moi, si elle dit que Malta est vivante, c'est vrai. Ma sœur va nous revenir. Mais pour cela, vous devez vous laisser guider par moi, comme je me laisse guider par mes rêves. »
Des cris s'élevèrent dans les alentours du port.
On se précipitait de partout pour mieux voir.
Rein n'avait aucune curiosité. Chalcédien ou non, c'était ses semblables que le dragon massacrait. Il entendit les craquements d'énormes poutres qui s'effondraient, un autre navire dématé, sans doute.
« C'est trop tard pour ces salauds, ils ne peuvent plus fuir maintenant !»
s'exclama sauvagement un guerrier exultant. Près de lui, d'autres renchérirent.
« Regardez la montée! En vérité, c'est la reine des cieux !»«
Elle va nettoyer nos rivages de ces infâmes Chalcédiens !»«
Oh ! Elle a écrasé la coque d'un seul coup de queue !»
À côté de lui, Grag brandit soudain son épée. La fatigue paraissait l'avoir quitté.
« À moi, Terrilville! Sus aux survivants qui atteindront la plage !»
Il se mit à courir et les hommes qui tout à l'heure tremblaient à l'abri des ruines s'empressèrent de le suivre. Rein et Selden restèrent seuls sur la place dévastée. Le petit garçon soupira.
« Vous devriez aller vite rassembler les gens de toutes les factions de Terrilville. Il vaut mieux parler d'une seule voix quand nous traiterons avec le dragon. »
« Tu as raison, je suppose, »
répondit Rein distraitement. Il se rappelait les rêves étranges de sa jeunesse. Il avait rêvé de la cité ensevelie qui s'animait, pleine de lumière, de musique, de gens et du dragon qui lui parlait. Ses songes venaient parfois à ceux qui passaient trop de temps en bas. Mais n'était-il pas à ses rêves l'apanage des marchands du désert des pluies? Tristement, Rein frotta du pouce la joue maculée de poussière du gamin. Alors il aperçut, muet de stupéfaction, l'éventail d'écailles argentées qu'il avait dévoilé sur la pommette de Selden.